Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous au fil de la prochaine heure pour parler bande dessinée et en parler sous différents angles, en fait, cette semaine, puisqu'on sera un peu dans l'analyse, on sera un peu dans les suggestions. Dans l'analyse, parce qu'en deuxième moitié d'émission, il y aura Michel Giguère qui sera de passage. Michel Giguère, que vous connaissez, animateur des rendez-vous de la BD et qui, pour son édition de février 2022, nous amène sur des BD qui explore le monde, donc des récits de voyage véridiques adaptés en BD. Donc, comment on exploite un peu les possibilités de la bande dessinée pour refléter, dans le fond, le monde qui nous entoure et surtout l'expérience de découverte de ce monde-là. Donc, ça, ce sera en deuxième moitié. Et dans quelques instants, ce sera Marco Duchesne qui sera de passage pour une carte blanche. Et lui a choisi de la consacrer à des ouvrages qui traitent de la BD, qui analysent la BD. Et point important, on ne sera pas dans des bandes dessinées qui parlent de BD, mais vraiment dans des ouvrages parfois un peu savants. C'est un créneau qui est en développement, qui a toujours été présent, mais qui prend progressivement de la place là, et une niche, qui s'approprie tranquillement une niche, si on peut dire, dans l'offre littéraire et qui va permettre de comprendre un peu les mécanismes de la bande dessinée et peut-être de bonifier, dans le fond, notre lecture de ce médium-là. Alors, Marco aura quelques suggestions pour nous et ouvrira un peu cette boîte de Pandore. Donc, c'est le menu pour cette semaine, ici à La Vie en BD. Toujours dans le cadre de La Vie en BD, et il y a toujours l'option, en fait, pour les collaborateurs réguliers de l'émission, l'option carte blanche, donc où essentiellement, ils lèvent la main, ils disent « j'ai envie de te parler d'un sujet ». Et voilà, on prend une demi-heure pour explorer une thématique de leur choix. Et cette semaine, c'est Marco Duchesne qui a levé la main, qui a dit « j'ai envie de jaser avec toi ». Marco, allô?
Salut!
Et je vais contextualiser un peu ce qui t'a amené au sujet de ta carte blanche cette semaine, Marco, parce que, on fait les clubs de lecture ensemble et on se partage toujours un peu à l'avance, quelques mois, quelques semaines, les thématiques dont on va discuter. Et entre autres, je vous ai lancé en janvier dernier la thématique que je choisirais pour le mois de mars, où je trouvais intéressant qu'on discute de bandes dessinées qui parlent de bandes dessinées. Et en lançant ça, Marco, j'ai l'impression que tu as pris cette thématique-là au vol. Évidemment, il y a les albums dont on va discuter au club de lecture, mais toi, ça t'a ramené vers une filière que tu cumulais d'albums au fil des années et de réflexions aussi que tu cumulais au fil des années.
En fait, il y a de ça, mais aussi de ces discussions qu'on a pendant l'émission, mais aussi hors d'onde. Quand on jase un peu de ce qui se passe en BD, et là, ma réflexion aussi est de vouloir avoir envie de parler d'ouvrages qui parlent de BD, vient aussi du fait que, tu sais, Internet est une des plus belles inventions qui a été faite pour la communication, et c'est aussi la plus pire des inventions qui a été faite pour la communication. Alors, quand je me suis abonné, quand j'ai commencé mon compte Facebook, je m'étais abonné à tout ce qui parlait de BD. Et récemment, je découvre qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la BD, mais se prennent parfois pour des critiques et imposent leur savoir et leur connaissance. Tandis que de notre côté ou de mon côté, j'ai plus envie de partager mes savoirs et mes connaissances. Et que c'est à la portée de n'importe qui. Si chacun se fait ses petites lectures, il peut commencer à voir comment fonctionne la bande dessinée, comment elle se lit, comment on arrive à lire ces histoires-là et avec juste quelques petites lectures. Et ma réflexion et mon envie de venir en parler un peu. Un des premiers trucs, c'est de savoir comment ça marche, la BD. Alors, un des ouvrages, les lieux faits de vulgarisation, c'est Benoît Peters qui l'a écrit. Benoît Peters, et en fait, Benoît Peters a été l'élève de Roland Barthes, célèbre cinéticien, analyste, tout ça. Et sa thèse de doctorat ou sa thèse de fin d'études au niveau à l'université était sur Hergé. Et il a fait un magnifique ouvrage qui s'appelle « Les bijoux ravis » où il analyse case par case les bijoux de la Casse-Papillard. Et ça l'a propulsé dans le milieu de la BD avec François Skelton, il est devenu scénariste, ils ont créé des mondes, les cités obscures, et il a été scénariste. Mais à un moment donné, dans les années 90, il a écrit un petit ouvrage qui s'appelait, à l'époque, Casse-planche et récits, et qui s'est transformé, maintenant, on peut le trouver en livre de poche, qui s'appelle Lire la bande dessinée. Et Benoît Peters, tranquillement, simplement, nous dit comment ça fonctionne une bande dessinée. Il part de la case, comment regarder cette case-là, comment regarder une suite de cases, parce que la BD, la définition, c'est un récit qui est raconté en une succession d'images qui donne l'impression de mouvement, pas juste de mouvement physique, mais de mouvement dans le récit. Et le texte et l'image sont interdépendants, c'est-à-dire que ils peuvent pas se dire un sans l'autre, même si parfois la BD, il n'y a pas de texte. Alors, Benoît Peters, dans ce petit ouvrage-là, lire la bande dessinée, c'est ça. Alors, étape par étape, il nous fait une petite histoire de la BD, mais il nous raconte comment fonctionne tout le système de narration en BD. Et c'est toutes des choses qu'on fait naturellement. C'est-à-dire, il n'y a rien de compliqué.
Oui, mais des fois, ça vaut la peine de prendre un pas de recul puis d'essayer de se demander comment je la lis puis de comprendre des processus instinctifs. Je trouve que ça peut permettre après ça d'enrichir puis de comprendre le travail que les auteurs ont fait pour orienter cet inconscient-là aussi.
Tout à fait. Et juste mettre les mots et voir comment fonctionne, c'est... Notre regard change tout au tout. Après chaque album, maintenant, on peut voir des choses, comment elles fonctionnent, qu'on ne voyait pas. On sait que ça fonctionnait, mais maintenant, on sait comment ça fonctionne. Et de là, avoir tout le travail que les auteurs mettent. Alors, les cases, les successions de cases, ils nous parlent de la planche, de la page, comment elle se lit, comment on peut la travailler, comment la narration se fait en succession de cases, mais comment on peut jouer avec. Et tout du long, c'est un tout petit livre. Et tout du long, à la fin de ça, effectivement, là, il y a une espèce de monde qui s'ouvre, puis on est armé, soit pour rien en faire, mais peut-être pousser plus loin des lectures sur la BD et pouvoir voir des choses qui nous semblaient un peu pas accessibles au niveau de la narration, du dessin, du découpage dans certains albums. Druyet, les premières fois, c'est déconcertant. Mais quand on sait maintenant quand on sait après la lecture de lire la BD, quand on sait maintenant comment tout ça s'organise, tout ça fonctionne, ben peut-être que ça nous ouvre les yeux sur des choses dont on aurait peut-être rejeté parce que on les trouve pas accessibles.
Oui, ou de donner, dans le fond, un deuxième regard. Parce que pour moi, c'est toujours un peu... j'imagine que ça dépend un peu de l'expérience de lecture qu'on a, mais l'album, on lit souvent une première fois de manière un peu... On se lance un peu dans l'album, puis après ça, oups, on a envie de le revenir une deuxième fois pour prendre le temps, justement, de vivre un peu différemment, de comprendre un peu les procédés, puis d'avoir un peu ces bases-là, je trouve que ça vient servir un peu à l'expérience de lecture, puis vient justement mettre en exergue, je pense, la maîtrise ou le travail de ces auteurs-là. Donc, il y a une richesse vraiment clairement là-dedans. Là.
Tout à fait. Il est maintenant en format de poche chez Champ Flammarion, puis ça coûte pas très cher. Et ça
puis peut, c'est accessible comme analyse aussi.
Ah oui, et moi, je le relis de temps en temps. Là, c'est comme un outil... qu'on sait se servir, mais de temps en temps, c'est bon de relire les instructions. Du côté québécois, il y a des ouvrages qui sont disponibles et qui donnent, parce que la BD, il y a une multitude d'ouvrages sur l'histoire de la BD, depuis ses débuts, même on peut reculer jusqu'aux grottes de Lascaux avec les dessins, souvent on repart jusque-là, mais la tapisserie de Bayeux aussi fait partie un peu de ça. Il y a une multitude d'ouvrages faciles à trouver sur l'histoire de la BD, mais au Québec, il y a Michel Viau qui, lui, nous a fourni enfin une histoire complète, parce que là, on a un premier tome, mais complète sur notre BD nationale. Et c'est important parce que aujourd'hui, récemment, depuis les 20 dernières années, les auteurs de qualité ont enfin la possibilité d'être édités, soit ici et soit à l'étranger, mais ils ont la possibilité de s'exprimer, de nous raconter des trucs, et ils le font d'une manière extraordinaire. On a une bande dessinée en santé et vraiment mature ici au Québec, avec des ouvrages qui remportent des prix et qui sont sélectionnés qui sont mentionnés dans les différents prix au Québec, mais aussi à l'étranger. Alors, c'est important, je pense, que si on va avoir, si ça n'arrive pas du jour au lendemain que ces auteurs-là débarquent et comment ils ont travaillé pour en arriver là. Alors, Michel Vigneault, il nous fait une histoire depuis les débuts, les premiers arrivants en Nouvelle-France. Mais là, il part, et, moi, évidemment, tout le reste, à partir des années 60 ou 50, 60, là, apparaît les strips, ou un peu avant pour les strips, mais apparaît un peu une émergence de comics ou de bande dessinée québécoise. Dans le premier tome, évidemment, il part à Nouvelle-France avec les caricatures, avec les dessins humoristiques dans les journaux locaux, dans les journaux aussi nationaux. Écoute, c'est merveilleux de voir comment, moi, en tout cas, j'ai super aimé ça, de voir comment le dessin, comment l'expression en image, au début, on s'en servait comme pour passer des messages, pour passer une idéologie, pour passer, et tout ça, tout du long, il nous raconte un peu comment fonctionne, et à travers ces dessins-là, à travers les comics, on voit se transformer, avec les exemples qu'il donne, on voit se transformer ces dessins-là en quelque chose qui, oui, est de la bande dessinée. On voit apparaître les phylactères. Tu sais, j'ai beaucoup...
On les voit apparaître d'ailleurs au Québec avant la France. Ça m'a frappé de savoir qu'à un moment donné, là, avant justement la déferlante du plessiste, que la BD québécoise était même en avance à cause des influences peut-être américaines aussi en termes de forme sur la bande dessinée francophone européenne et en termes de thématique sur le roman qui était pogné dans le terroir jusqu'à Gabriel Leroy, alors que dans les années 1900, ben, la bande dessinée parlait de thématiques urbaines. Donc, ça m'a vraiment frappé, ça.
Tout à fait. Pour en avoir lu des histoires de la BD mondiale et tout, là, ça a été vraiment... Ça rafraîchit un peu ce qu'on pense de la BD et ce qu'on pense de... globalement de la BD, c'est remettre notre BD nationale dans un système mondial. Comme tu dis, il y a eu des shots. Le phylactère, quand j'ai constaté la chose, je suis allé vérifier voir comment il apparaît dans, mais c'est les Américains, puis il y a du côté français, il y avait Saint-Onguin qui utilisait pour aussi écouter le phylactère, mais il n'y a rien de précis comme tel. Mais là, ça, tu regardes les dates, tu fais « Ah, wow, on est en avance. » Et après ça, il développe l'histoire de la BD, les albums, les auteurs et tout, dans les magazines, dans les...
Le deuxième tome, en fait, va être publié un peu plus tard ce printemps, où il va partir justement des années 68 pour nous présenter le printemps de la bande dessinée québécoise aussi, donc revenir un peu sur cette époque-là. Mais Vio, puis effectivement, là, je suis 100% derrière toi avec cet album-là. Là, c'est, je veux dire, ahurissant de richesse comme inventaire de tout ce qui s'est fait pour comprendre un peu comment aussi on en est arrivé à 1968 et remonter vraiment aux origines de la bande dessinée, de voir un peu cette évolution, cette mise en contexte-là. Je trouve que c'est extrêmement riche et nécessaire à cette étape-ci. Pour la BD et pour la contextualiser dans une histoire beaucoup plus large que ce qu'on a parfois tendance à faire, malheureusement.
Oui, ouvrage majeur à lire sur la BD. Côté québécois...
Et si je fais une parenthèse aussi, si les gens veulent être convaincus plus avant sur cet ouvrage-là, allez sur lavieenbd.com. On a passé une heure avec Michel sur ce premier tome et c'est pas mal certain qu'on va passer une heure sur le deuxième aussi. Ah, oui. Il y a juste trop à dire là-dessus. Là. C'est des ouvrages magistraux.
Du côté québécois, ben, on a eu pour la première fois il y a quelques années, on a eu notre premier programme universitaire consacré à la bande dessinée à l'Université du Québec à Gatineau.
En Outaouais.
En Outaouais. Donc, ce programme-là a survécu, c'est-à-dire, et je pense qu'il y a encore.
Oui, il a fait sur. Ils ont fêté des anniversaires déjà.
Ce qui a permis, après quelques années, de commencer à avoir des gens qui réfléchissent sur la BD, mais d'ici et d'ailleurs, mais des premiers penseurs de la BD. Il y en a eu en Europe, il y en a une parlée en Europe, mais ici, on a commencé à les voir. Alors, sur la directrice Sylvain Lemay, lui est professeur là-bas au programme, Il a ramassé des textes, en fait, je pense que ça faisait partie d'un colloque, d'un week-end, genre, avec des exposés et tout. Alors, chaque petit texte, c'est des exposés sur différents trucs, comme Marc-Antoine Mathieu, entre autres, comme Gottlieb, comme... Il y a plein d'analyses, mais je l'ai trouvé intéressant parce que un des premiers textes d'un certain Lacroix est sur la définition de la bande dessinée. Là, avec lire la BD, Benoît Pitos, on regarde comment fonctionne la BD, mais aller chercher une définition, repenser au-delà du dictionnaire, on peut toujours se prendre un dictionnaire, s'en faire une. Moi, celle que je t'ai donnée tout à l'heure, c'en est une que j'avais pris avec différents ouvrages sur la BD, les dictionnaires, les encyclopédies, et je m'en suis fait une qui cadrait avec la façon dont je parle de la BD. Mais là, lui, vraiment, il va chercher les premières définitions qui se faisaient, il parlait que du contenu, et il va tranquillement adapter les spécificités de la bande dessinée, qui est sa narration, et le dessin, et puis le texte. Alors, pour ce premier chapitre, j'ai trouvé que celui-là était vraiment intéressant. Les autres textes aussi, les autres textes sont des analyses, on peut toujours y trouver des éléments de la bande dessinée à travers des auteurs qui ont su. C'est comme Marc-Antoine Mathieu dans L'Origine, le premier tome de Julien Pépin. On comprend que là, Marc-Antoine Mathieu joue avec la narration, avec des trous dans les pages, avec des pages, dans la mise en abîme ultime, là. Donc, à ce niveau-là, réfléchir là-dessus, c'est aussi réfléchir à ce qu'est la bande dessinée. Et ça s'appelle « Regard sur la bande dessinée » et c'est aux 400 coups. Je pense que c'est encore disponible.
Oui, sinon des fois on creuse un peu ou en allant voir dans certaines bibliothèques, au besoin on peut les retrouver. Mais effectivement, puis il y a une prépondérance, le programme de l'UCO, couplé avec d'autres événements. Je pense qu'entre autres, il y avait un colloque de recherche en arts séquentiels qui est organisé de façon autonome, qui a été repris par le Festival BD de Montréal, qui viennent mettre de l'eau à la roue, si on peut dire, de la recherche sur la BD au Québec et sur la BD québécoise au Québec également. Donc ça, c'est intéressant de voir aussi que, d'un côté, il y a des jobs d'inventaire comme celle que Michel Villot a fait, qui sont nécessaires, puis de l'autre, bien, qu'il y a des chercheurs dans un contexte académique qui creusent un peu, qui développent un peu ces mises en relation-là, ou sinon qui apportent une perspective québécoise à la recherche sur la BD plus francophone, un peu plus large aussi. Donc, ça devient intéressant, puis c'est intéressant d'avoir justement des forêts comme ça pour voir un peu qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait.
Mais tu sais, ça montre aussi l'évolution, tu sais, de notre BD, mais de la BD, c'est global. Il existe différents dictionnaires. Il a existé dans les dernières années différents dictionnaires qui sont des fois remis à jour, des fois pas. Des dictionnaires qui parlent des auteurs, des maisons d'édition, des séries, des trucs. Et ça, le truc, c'est que c'est pas mis à jour souvent, fréquemment. Donc, on peut toujours aller chercher des trucs, mais on échappe un peu. On échappe peut-être des trucs plus récents. Par contre, Thierry Grosstein, là, on parlait de têtes qui réfléchissent sur la BD. Thierry Grosstein est un des premiers en Europe, avec les cahiers de la BD, à réfléchir, à faire des ouvrages sur la bande dessinée, sur son système. D'ailleurs, il l'a appelé le système. Et Thierry Grosstein, bon, au fil des années, s'est enfermé un peu dans un discours universitaire un peu plus moins accessible, tout dépendant des ouvrages. Mais il a été approché pour faire superviser le bouquin de la bande dessinée. Alors, le bouquin de la bande dessinée est un dictionnaire. Oui, ça fonctionne avec par ordre alphabétique et tout, mais c'est un dictionnaire sur les thèmes de la bande dessinée, les spécificités de la bande dessinée, des trucs qui vont chercher que la bande dessinée expérimente. Entre autres, il y a un magnifique article sur l'abstraction. Il décrit comment certaines bandes dessinées vont chercher des mouvements de l'art, de l'abstrait, des trucs comme ça, et finissent par jouer avec. Mais il y a aussi des choses sur les héros, définition des héros spécifiques à la bande dessinée. C'est vraiment... il est courant, les courants aussi. Alors, Grosstein nous donne un dictionnaire un peu plus Marianne, un peu plus pratique pour dégager différentes spécificités de la bande dessinée. Et c'est vraiment un truc, le fun à lire, t'sais. Ça ne se dit pas d'un coup, évidemment, mais le feuilleter, s'arrêter à un thème et lire là-dessus. Alors, évidemment, il y a des références aux albums, aux auteurs, c'est sûr. Et là, on peut s'en donner à cœur joie et aller relire ou lire ou découvrir des auteurs. Alors, moi, pour ma part, ça a été une belle réussite parce que Grundstein, c'est pas toujours accessible ou abordé pour vraiment avoir des aspirines.
Une volonté de vulgarisation, voilà. Dans le fond, de dire bon, OK, celui-là, on va ouvrir un peu les vannes, y aller très large avec un public qui va s'approprier un peu ces thématiques-là, puis peut-être justement se préparer aussi à des lectures plus complexes, éventuellement, parce que justement, on établit les thèmes, on établit un peu les cadres, l'histoire, etc. Donc, après ça, éventuellement, les intéressés peuvent choisir d'aller plus loin.
Tout à fait. Et là, la manière dont j'ai présenté tout ça était en progression, la base, et jusqu'à ce bouquin-là. Mais il faut, si on est intéressé et si on est de nature curieuse et qu'on veut développer ses sens à la lecture de la BD, comment elle marche, un coup qu'elle marche, on peut réfléchir maintenant. Et est apparu des ouvrages beaucoup plus pointus, vraiment des thèses, des colloques dans lesquels les penseurs, Thierry Grundstein entre autres, en a fait quelques-uns. C'est une maison d'édition européenne française qui s'appelle les Presses universitaires François Rabelais, que je connaissais pas, et est apparu dans une collection qui s'appelle Iconotexte. Dans cette collection-là est apparu des livres sur la bande dessinée, des livres qui réfléchissent sur la bande dessinée, différents aspects, entre autres la formation du livre, un bouquin qui raconte comment la bande dessinée est passée, comment sa fonction avec le littéraire, le format livre, comment tout ça s'est joué dans son histoire. Et là, c'est vraiment pointu. Et là, il y en a d'autres. Entre autres, j'ai la bande dessinée dialoguée. OK? Alors, celui-là n'est que sur le phylactère, n'est que sur le texte en bande dessinée. Donc, on explore comment il est apparu et on explore aussi comment il détermine cette façon de lire-là. Et on pousse le truc jusqu'à la BD sans texte quand il n'y a pas de phylactère. Bref, toutes ces séries d'ouvrages-là sont un peu plus pointues, mais vont chercher des aspects vraiment un peu plus spécifiques de réflexion sur la bande dessinée. Entre autres, une avec les nouveaux médias. Comment les nouveaux médias vont parler de la bande dessinée, mais comment la bande dessinée va utiliser ces nouveaux médias.
Oui, dans sa diffusion, dans sa structure, voilà. Et comment, dans le fond... un peu sur l'évolution du livre vers la planche, de la planche vers l'ordinateur. Donc, et je trouve ça intéressant, dans le fond, des forêts, des fois, se limiter un peu à un cadre, ça évite de tomber dans des éléments généraux puis qui sont quand même présents dans différents livres, dans différentes approches, différentes méthodes, mais se plonger justement sur le phylactère, ça permet de développer d'autant plus son histoire en considérant son histoire, bien, de comprendre son importance, comprendre son impact, comprendre comment on le développe, comment on l'utilise, etc., etc. Ça...
Et puis, Et cette collection-là a quelques titres un peu plus spécifiques à la BD, dans le sens que il y a un magnifique ouvrage sur le magazine À suivre, que Casterman avait développé. Et c'est toute une époque, ça, À suivre, c'est le début de la BD pour adultes, c'est le début d'une BD qui s'adresse à des adultes, mais qui commence à penser en bande dessinée, et qui commence à réfléchir. C'est la naissance de Corto Maltese, de plein de Tardy, Jacques Tardy. Et c'est cette volonté de vouloir dépasser l'album jeunesse, l'album tout public, l'album public général, et de vouloir dépasser ça. Alors, c'est un magnifique livre qui raconte un peu cette histoire-là, mais cette évolution-là dans la BD. Il y en a un sur Kino. Sur Kino et son fameux Mafalda et ses dessins humoristiques. Donc, une belle analyse de toute son œuvre et en fait biographique, parce qu'il vient d'un pays où, évidemment, ça a brassé un peu. Et ces ouvrages-là. Il y en a un sur Hergé. Bon, Hergé, qu'est-ce qui n'a pas été dit? Qu'est-ce qui n'a pas été... Mais quand même, on voit un peu la portée que peut avoir cette collection-là et cette maison d'édition.
Alors, ce serait une recommandation qu'on ajouterait à l'ensemble. Et évidemment, il y en a d'autres aussi, Marco. J'ai l'impression que c'est un sujet, c'est un peu ouvrir une boîte de Pandore, surtout quand on se limite un peu à la sphère essai. Parce qu'on a effectivement tendance, puis l'objet du club de lecture va être des bandes dessinées qui parlent de bandes dessinées, donc soit Scott McCloud et autres. Mais là, dans tes sélections, aujourd'hui, on est vraiment dans des essais, ouais, dans des livres à texte. Donc, on n'a pas de mise en image des méthodes de la BD, mais vraiment plus des réflexions scientifiques, presque littéraires, autour justement de l'objet BD.
En fait, oui, l'idée de ma participation pour cette carte blanche-là, mon idée était tout simplement, les gens vont chercher sur Internet à savoir si c'est bon, pourquoi c'est bon, et ça. Et là, ils vont tomber sur une pléiade de gens qui aiment la BD, mais parfois ne maîtrisent peut-être pas le langage ou la façon de que le médium s'organise. Ce qui fait que moi, je me disais, mais tout le monde peut le faire. Il suffit juste de commencer quelques petites lectures comme lire de la bande dessinée et se faire confiance. C'est comme ça que les gens vont pouvoir apprécier la bande dessinée. Quand je suis en librairie et que je suggère des trucs, parfois les gens veulent juste lire une bonne BD, il n'y a pas de problème. Mais quand tu commences à voir l'intérêt de la personne, tu lui dis, attends, là, je vais te montrer quelque chose, comment ça marche. Et là, tu vois briller ses yeux, tu dis, regarde, lis le Benoît Peters, lis une petite histoire de la bande dessinée. Ce qui fait que les gens peuvent devenir autonomes un peu plus. Je ne dis pas d'aller pas aller regarder sur Internet les pseudo-critiques, mais ce que je dis, c'est, tu sais, on peut toujours les regarder, mais de son côté, si on a les connaissances et le savoir, c'est pour le partager.
Oui, puis dans un contexte où, Marco, comme libraire, est-ce que tu as l'impression, parce qu'on voyait des statistiques qui montraient que la bande dessinée, je pense en termes de vente, c'est le médium littéraire qui cartonne un peu, entre guillemets, le plus en Europe ici. Est-ce qu'on voit avec cette montée en popularité de la bande dessinée, l'apparition aussi, justement, puisque tu parlais qu'il y avait beaucoup de nouvelles collections, de nouveaux ouvrages, il y a des incontournables qui ont été faits il y a un certain temps, mais il y a des éditeurs qui se lancent un peu vers l'essai, où on sent qu'il y a un marché qui se développe d'analyse de la BD qui reste nichée, mais qui surfe un peu sur la popularité du médium.
Cette popularité-là et ces ouvrages-là qui commencent à faire en sorte que, en fait, ça vient du fait que plus c'est populaire, et là, on voit la BD commencer à être au programme de certains cours de français au secondaire. J'en vois passer, là, François de Laval, ils ont un Astérix de temps en temps, ils ont V pour Vendetta. Pendant le cours d'anglais. La BD, et ça, c'est juste là, dans les autres écoles, on le voit, là, les professeurs commencent à utiliser la BD pour étudier des thèmes, pour étudier le français, pour étudier des langues. Et on le voit, ça. Et plus c'est à l'étude, plus c'est au programme des écoles, des universités, des tout. Alors, il faut commencer. C'est là que les ouvrages commencent à arriver parce que les professeurs veulent se renseigner. Pas tout d'aller chez son libraire. Moi, je vais mettre ça au programme. C'est bon. Oui, c'est bon. Alors, ce que je conseille, c'est lire tel ouvrage qui parle de ça, si on veut faire passer le... Tu sais, et en même temps, le professeur ou les professeurs qui auront lu et qui auront les outils de comment parler de la BD, qu'est-ce que c'est de la BD à leurs étudiants, c'est là que tu partages ton savoir et tes connaissances. Et tu en fais des gens un peu plus critiques, un peu plus connaisseurs, qui fait qu'ils vont apprécier ou pas apprécier, peu importe, ils vont savoir pourquoi ils l'ont. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qu'on voit monter en tu sais, il y a les deux, il y a un paquet de monde qui dit n'importe quoi, et commence à y avoir des gens un peu plus organisés, un peu plus critiques sur le médium.
Alors, on rappelle les titres dont on a parlé aujourd'hui. Alors, on a commencé par, je l'ai nommé un peu en vrac, il y avait BDQ, l'histoire de la bande dessinée au Québec, premier tome l'automne dernier, le deuxième s'en vient, c'est Michel Viaud. Thierry Grostern, c'était l'art de la BD.
Le bouquin de la bande dessinée.
Le bouquin de la bande dessinée. Ensuite, il y avait Benoît Peters.
Lire la bande dessinée.
Et on termine avec cette collection qui est arrivée.
La collection qui s'appelle une collection qui s'appelle Iconotexte aux éditions Presse universitaire François Rabelais. toute une collection sur la BD.
Et on peut également aller lorgner du côté de l'Université du Québec en Outaouais, entre autres, une compilation de textes du côté des 400 coups. Il y en a peut-être d'autres aussi qui sont mises en disponibilité, donc ça peut être une filière également intéressante. Alors, quelques suggestions. Et il y en a d'autres aussi. Évidemment, peut-être une prise 2 en cours de route. Mais d'ici là, Marco Duchesne, je rappelle, libraire chez Pantoute, merci beaucoup pour cette carte blanche.
Ça m'a fait plaisir.
On aura quelques instants pour faire un petit clin d'œil au prix des libraires qui ont annoncé les finalistes de leur volet bande dessinée adulte il y a de ça quelques temps. C'est tout récent. Alors, du côté du volet adulte Québec, trois belles BD qui ont été choisies par le jury. Alors, il s'agit du Petit astronaute de Jean-Paul Hyde dont on a abondamment parlé ici. Il s'agit également de Bégantic, Un train dans la nuit d'Anne-Marie Saint-Cernier et Christian Quesnel, dont on a également abondamment parlé ici, et également de Temps libre de Mélanie Leclerc, qui figurait dans les coups de cœur qu'on avait discutés l'an dernier. Enfin, il faut dire que les temporalités des prix sont toujours un peu variables, donc il y a des titres comme ça qui se retrouvent un peu à se chevaucher entre deux années. Mais décidément, là, trois beaux titres qui ont été choisis par le jury de ce côté. Je serais curieux de voir qu'est-ce qui va en ressortir en matière de gagnant-gagnante, mais très, très belle sélection. Si vous n'avez pas lu ces trois albums-là, d'ailleurs, on vous les suggère très, très fortement. Du côté du volet adulte hors Québec, alors là, on parle de Winchless, J'ai tué le soleil, un album dont on a parlé ici en club de lecture. Également, deux albums, dont un des deux que j'ai découvert il y a quelques temps et l'autre qui est sur ma pile, très, très haut sur ma pile de lecture. Alors, La désolation d'Apollo et Gauthier et René au bois dormant d'Hélène Husdin. Hélène Husdin qui avait gagné d'ailleurs le prix, le grand prix de la critique ACBD. Il y a de ça quelques mois, donc au retour un peu avant les fêtes l'an dernier. Alors ben voilà donc pour les finalistes, donc la sélection 2022 du prix des libraires. Et je rappelle en fait qu'il y avait également une sélection jeunesse qui avait été faite, qui elle remonte un peu plus loin si je ne m'abuse. Il s'agissait d'Arnold, un genre de super-héros, d'Éther Tekavec et Guillaume Perrault, de Mort et déterré, le tome 2 de Jocelyn Boisvert et Pascal Colpron, et de Truffe d'Isabelle Arsenault et Fanny Britt. Et dans le volet hors Québec, alors là, c'était Clan de la la Rivière Sauvage, voilà, L'œil du serpent de Régis Autière et Renaud Diliès. Donc, c'était du côté de la Gouttière. Sinon, vous aviez également Lightfall, la dernière flamme, donc de Tim Probert, et Ours de Ben Quinn et Joe Todd Stanton, alors qui était finaliste dans le volet jeunesse du côté du prix des libraires. Alors, à suivre, on insère ça dans notre pile de la saison des prix. On poursuit ici à la vie en BD et on plonge maintenant vers les rendez-vous de la BD. Chaque année, depuis 2005, février nous les ramène et leur concepteur, animateur est avec nous, le médiateur en bande dessinée, Michel Giguère. Bonjour.
Bonsoir, Raymond.
Alors, d'entrée de jeu, là, on est en ouverture de saison aujourd'hui. Alors, je pense qu'on va se planifier nos rendez-vous pour hiver-printemps 2022. Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté pour cette 35e saison?
Oui, sortez vos agendas, mais tout en sachant que vous pouvez toujours les voir en rattrapage, mais c'est toujours plus fun en direct. Alors, 9 mars, en supplémentaire, un exposé à la fois instructif et puis divertissant sur l'aménagement du récit en planche. Tantôt pour servir la narration, tantôt pour créer vraiment des tableaux, là, et parfois les deux en même temps. Alors, la fièvre des planches, des bijoux de mise en page. Le 13 avril, Christian Quesnel, de Beethoven à Lovecraft, en passant par Mégantic, un entretien évidemment à ne pas manquer. Et le 11 mai, ce sont des vieillards chauves et édentés, mais ils provoquent des mésaventures décoiffantes et ils ont du mordant. Ce sont des mémés plissés, mais leur bagout n'a pas pris une ride. Qui a dit que la sagesse venait avec l'âge? Le troisième âge dans le neuvième art, deuxième partie, les vieux sacripants. Alors voilà, c'est notre saison hiver-printemps 2022.
Et évidemment, si c'est avec nous et si on dit que ça revient en février, c'est parce qu'il y en a un qui s'en vient là, très, très, très bientôt. C'est mercredi prochain, le 9 février. Donc, c'est la thématique Terra Incognita, une planète à explorer, qui amorce la 35e saison.
Exactement. Et puis, depuis le temps que je fantasmais de proposer un titre en latin, moi, je trouve ça vraiment anachronique, le latin au 21e siècle. Quoique, il y a un mot latin hein, qui s'est invité chez nous il y a 2 ans, coronavirus. Alors, depuis que la COVID s'applique à explorer les continents puis en même temps nos organismes, ben on est très limité nous-mêmes dans nos propres explorations. Fait que on peut dire que les seuls voyages qu'on se permet à peu près, c'est d'aller au supermarché. Hein? Alors, c'est pour ça que moi, depuis le début de la pandémie, j'ai offert 2 rendez-vous la BD sur le thème des carnets de voyage en septembre 2020 et puis en mars 2021. Et puis, j'avais alors présenté des récits de voyage véridiques et contemporains. Alors que mercredi soir, je vous invite sur les traces des voyageurs de jadis, quand c'était autrement plus aventureux puis pas mal plus périlleux. Alors, le dépaysement sera double quand on y pense, puisqu'on va non seulement explorer les 4 coins du monde, et là, en passant, il va y avoir des paysages époustouflants, mais on va du même coup voyager dans le temps. Et puis, ça va aller du Moyen Âge jusqu'au 20e siècle.
Alors, on peut penser, Michel, qu'il va être question des grands explorateurs. Enfin, on pense à des gens comme Marco Polo, comme Magellan et compagnie. Donc, on est un peu dans la grande histoire et on n'est pas dans des récits de fiction. Donc, ça va être des récits de voyages véridiques adaptés en bande dessinée.
Oui, tout à fait. Et il y aura des noms mythiques comme ceux que tu viens de nommer. Il y a des noms aussi vaguement familiers et des noms carrément méconnus, mais portés par des êtres hors du commun. Donc, des histoires vraiment qui nous accrochent et qui ne nous lâchent plus. Et il y en a tellement de ces aventuriers du globe que j'ai dû limiter ma présentation à la moitié des continents là, pour cette fois-ci.
Alors, ça sonne en fait à un doublé latin et une deuxième partie éventuelle, un thème en 2 parties, un peu comme tu nous as habitués d'ailleurs au fil des années.
Ben oui, c'est un choix que j'assume. Écoute, je m'attarde sur les BD au lieu de les présenter comme une simple liste de suggestions de lecture là, à toute vitesse. Ce qui fait que ça déborde souvent sur une deuxième soirée, des fois plus. Et puis, écoute, je choisis des sujets qui m'intéressent, moi, au premier chef. Les albums que je découvre dans ma préparation, eh bien, souvent, ils m'inspirent. J'ai le goût d'en parler, dans le fond et aussi dans la forme, c'est-à-dire parler de ce que ça raconte, mais commenter aussi la manière dont c'est raconté. Et c'est plutôt, tout ça est plutôt positif, je trouve. Moi, je prends le pari que mon plaisir à lire ces BD-là et à préparer la diapo-conférence est garant du plaisir qu'aura l'auditoire, entre je l'espère, et ça, ben, c'est en salle comme en ligne.
Et tu réponds un peu à la question qu'on se pose ces mois-ci autour justement des activités. Est-ce qu'on reste en mode hybride, donc avec un volet en présence? Et donc, de toute évidence, là, c'est possible grâce aux allègements annoncés récemment par le gouvernement.
Oui, hein, c'était un petit peu in extremis. On a longtemps été dans l'expectative, là, mais mes partenaires de la Maison de la littérature et moi, on fixait le calendrier en suivant l'évolution de la situation sanitaire. Puis on a compris, il n'y a pas si longtemps, que ce serait possible d'accueillir des spectatrices, des spectateurs, 30 en fait. Alors donc, les places étant limitées par la jauge de la santé publique, eh bien, je ne saurais trop conseiller aux gens de réserver par téléphone. Mercredi prochain, la moitié des sièges sera disponible et puis la moitié des continents sera couverte. Ça fait beaucoup de moitié, mais moi, en tout cas, moi, je vais être toute là.
Et on espère évidemment que les gens qui réservent sont là aussi parce que quand il y a juste 30 places de disponibles, on s'assure d'y être si on lève la main pour y aller. Et ça veut dire aussi que si on passe dans le coin, bien, des fois, il y a des gens qui ne sont pas pointés. Donc, ça peut valoir la peine pour une décision de dernière minute d'aller faire un petit tour à Maison de littérature d'un coup.
Oui. Tu as raison de le préciser parce qu'on demande aux gens d'ailleurs si vous aviez réservé et que finalement vous décidez de ne pas venir, ben, appelez-nous donc, ne serait-ce qu'à la dernière minute, parce que vous allez libérer des places pour les autres à qui on pourrait éventuellement dire ben, il n'y a plus de place. T'sais.
Alors, on ferme la parenthèse logistique et là, on va revenir à Terra Incognita. Alors, tu nous dis c'est la moitié du globe, mais Michel, un peu pour nous titiller, là, dans quel coin du monde est-ce que tu vas nous entraîner?
Ouais, je ne vais pas trop en révéler, je veux garder des surprises pour mercredi soir, mais après les nombreuses lectures et relectures que j'ai faites depuis un mois, il y a un constat qui s'impose et qui m'impressionne, c'est qu'à diverses époques, parfois très éloignées, les explorateurs ont souvent cherché un chemin, un nouveau chemin, vers l'Orient. sur terre, sur mer, sur glace, vers l'est ou alors carrément vers l'ouest, au Moyen Âge comme au début du 20e siècle, on veut trouver une nouvelle route vers l'Asie. C'est fou. Les explorateurs, eux, de leur côté, cherchent les défis, les sensations fortes et ultimement la gloire, alors que leurs commanditaires, que ce soit des reines, des rois, des présidents ou les riches, parce qu'à un moment donné, c'est le capitalisme qui va embarquer dans tous ces projets-là, eux tous, ils cherchent de nouveaux débouchés pour le commerce. Cette donne-là reste quasiment immuable au gré des siècles. Et d'ailleurs, cette quête de l'Orient a engendré un des malentendus les plus durables de l'histoire, à savoir que les Européens, puis leurs descendants jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ont appelé Indiens les premiers occupants des Trois Amériques. Ça aussi, c'est fou.
Oui, puis ça t'amène, en fait, j'imagine, comme médiateur à amener certains de ces albums-là avec d'autres vocabulaires. En fait, tu parles à bon escient, je trouve, d'explorer, d'explorateur, même si dans certains livres d'école et dans certains ouvrages à certaines époques, on parlait que Christophe Colomb avait, entre guillemets, découvert l'Amérique ou qu'avant lui, les Vikings avaient, entre guillemets, découvert le Groenland, alors qu'on sait que quand il était arrivé là, bien, il était accueilli par les peuples, par les nations qui y vivaient et qui occupaient déjà ce territoire-là depuis des milliers d'années.
Et ce que tu soulignes là, Raymond, c'est le second point commun là, à l'ensemble des BD, mais aussi à l'ensemble des territoires, à savoir que découvrir, c'est le mot qu'on utilise dans une perspective occidentale, européenne, un point de vue de dominant qui s'est imposé à cause de ça. Marco Polo, par exemple, a découvert la Chine, comme moi, j'ai découvert la France la première fois que je suis allé en voyage. Bon, j'exagère un peu, mais...
Non, mais on a découvert la ville de Québec à un moment donné aussi, Michel. Là, c'est...
Oui, quand on a commencé à sortir de chez nous. Ce que tu soulignes là, donc, on peut dire de la presque totalité des récits de voyage que je vais proposer dans ma présentation, là, qu'ils relèvent de l'exploration, oui, puisque ces aventuriers-là, avançaient, on n'exagère pas en prenant ce mot-là, ils avançaient au cœur de régions inconnues par leur propre civilisation, au prix de risques souvent déraisonnables et de dangers vraiment réels. Donc, qu'ils relèvent de l'exploration, oui, mais pas de la découverte, puisque ces territoires-là étaient habités. Sauf les pôles. Les pôles qui ont été le théâtre d'expéditions, ma foi, très dramatiques, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et dans ta présentation, est-ce qu'il va être seulement question d'explorateurs de territoire? Je demande ça parce que je me dis que pour comprendre le monde, il n'y a évidemment pas simplement une logique de carte géographique, de tracer des cartes et le reste.
Observation des plus pertinentes, mon cher. Il y a certains, effectivement, qui n'ont pas exploré des contrées vierges où aucun humain, ou en tout cas aucun occidental avait mis les pieds. Ils ont exploré autrement, mais en profondeur, non pas tant des territoires en surface, mais par exemple les sociétés qui y vivaient avec un regard d'anthropologue, ou alors étudier des formes de vie qui vivent sur le territoire ou qui y ont vécu il y a très longtemps avec un regard de scientifique, tantôt biologiste, tantôt géologue, archéologue, etc. D'autres encore ont exploré un coin du monde avec un esprit entrepreneurial pour tirer profit de ces ressources naturelles, par exemple. Ce qui ne donne pas, dans ces cas-là, des récits bucoliques, là, mais en tout cas, des récits certainement captivants.
Alors, on peut dire que ça va être un tour du monde multidimensionnel?
Un demi-tour du monde pour cette fois, qu'on va compléter une autre fois, pour pas que les gens soient déçus. Là.
Alors, je rectifie à un demi-tour du monde multidimensionnel, donc entre l'exploration de territoire et la découverte de culture et la rencontre, dans le fond, de culture oui. aussi, toute évidence. Mm-hmm. Donc, c'est ce à quoi tu nous convies à l'occasion, je le rappelle, de ce premier rendez-vous de la bande dessinée pour la saison hiver-printemps 2022, la 35e saison des rendez-vous de la BD. Le thème, c'est Terra Incognita, une planète à explorer. Donc, la diffusion en direct, c'est mercredi prochain, 9 février, 19h, que ce soit en salle à la Maison de la littérature ou en web diffusion sur la page Facebook de la Maison de la littérature. Donc, c'est gratuit, on le comprend, mais les places sont limitées. On réserve sur place par téléphone et on peut donner le numéro.
Oui, parce qu'il n'y a pas de réservation en ligne, malheureusement. On est encore un petit peu à l'ancienne. Alors, au 418-641-6797, à la billetterie de la Maison de la littérature, 641-6797.
Et je rappelle aussi, tu l'as mentionné, mais je pense que ça vaut la peine de le rappeler, l'ensemble des rencontres, des rendez-vous de la BD sont disponibles pour écoute en différé. On va sur la page Facebook de la Maison de la littérature et sincèrement, depuis le début de la pandémie, tu nous as offert des contenus d'exception, Michel. J'encourage fortement, on cherche toujours quelque chose à faire pendant qu'on lunch, Et pour moi, je veux dire, on les prend, on les découpe en deux ou trois segments d'une demi-heure, ça nous accompagne pendant la semaine et c'est parfois diablement plus intéressant. En fait, c'est toujours diablement plus intéressant que d'écouter un peu n'importe quoi. Alors, profitez-en de ce matériel-là également.
Écoute, c'est gentil, Raymond. Puis moi, j'apprécie que la Maison de la littérature les ait laissés tous disponibles. Vous pouvez les retrouver sur la page Facebook de la Maison de la littérature. Ils sont tous regroupés là, dans un même groupe de vidéos, évidemment sur l'intitulé « Rendez-vous de la BD ». Donc, ça part de septembre 2020. Hein, donc, avec la pandémie, on s'était ajusté. Et puis, ils sont tous archivés. Et justement, vous pouvez y aller selon vos goûts, parce que là, bon, on vient de parler d'un sujet où est-ce que là, j'utilise la bande dessinée pour parler d'autre chose. En l'occurrence, là, c'est un thème historique. Mais sinon, ça peut parler du langage de la BD, ça peut parler d'un genre en bande dessinée. Donc, vous y allez selon vos goûts. Il commence à y avoir pas mal de choix là, sur la page.
Il faudra sortir le DVD.
Hey, un coffret, mon homme, un gros coffret de luxe, une édition
avec les albums, là, t'imagines, là, t'achètes la salle, t'achètes une bibliothèque complète.
Là. Ah oui, avec un documentaire sur moi quand j'étais petit et tout. Là.
Alors bref, c'est un rendez-vous et Michel, nous évidemment, on va se reparler, j'imagine, à plus d'une fois d'ailleurs au fil des prochains mois, à la fois pour les rendez-vous de la BD, mais à la fois aussi pour un ouvrage qui s'en vient du côté des éditions de la Pastèque autour de Paul.
Alors, ouais, on aura l'occasion de se recroiser. J'y compte bien qu'on en parle, ça va faire du bien de parler d'autre chose.
Alors, à très bientôt.
Salut Raymond, hey, merci.
Alors, je rappelle qu'on s'entretenait avec Michel Giguère, donc médiateur en BD et animateur des rendez-vous de la BD. On va prendre quelques instants pour parler bande dessinée, quelques commentaires et critiques BD. Alors, petite mention de Arnold, le genre de super-héros de Guillaume Perrault et Ether Tekavec. C'est du côté des éditions La Pastèque. Donc, essentiellement, on se retrouve avec un groupe de gens, une famille où tout le monde est un super-héros, tout le monde a des super-pouvoirs et tout le monde a trouvé un peu sa place en lien avec ces super-pouvoirs-là. Mais il y a Arnold qui, lui, n'a pas de super-pouvoirs, ne se sent pas à l'égal des autres un super-héros. Et ben, de ce fait, il cherche un peu sa place dans l'équipe, dans le groupe. Finalement, il finira par trouver cette place-là en réalisant que oui, on peut contrer les méchants, mais on peut aussi aider les gentils. Et lui deviendra un super-héros super gentil qui aide les gentils à être encore plus gentils essentiellement. Et donc, il trouve sa place. Une belle petite fable essentiellement adaptée au goût du jour, un peu à travers justement l'imaginaire de super-héros qui est très présent dans l'enfance. C'est amené de façon assez linéaire, très agréable aussi. Donc, c'est un récit qui est très simple et qui est très bien proposé. Et ça ne m'étonne pas d'ailleurs de voir justement cette BD arriver sur différents palmarès rattachés à la bande dessinée jeunesse, puisque c'est effectivement un ouvrage de belle qualité. C'est une traduction que nous offre La Pastèque avec cet album. Donc, il y a aussi une diffusion du côté anglophone. Et sincèrement, si vous avez des jeunes, si vous avez envie d'amener ces jeunes-là sur le terrain, justement, de trouver sa place, ben pourquoi pas se lancer vers cet album-là. Je l'avais mis d'ailleurs dans les coups de cœur là, de 2021 à 2018 en matière de BD jeunesse, là, pour ceux qui avaient écouté l'émission il y a de ça quelques semaines. Je n'avais pas vraiment fait de critique formelle autour de l'album. Alors voilà qui est fait, si on peut dire, simplement pour vous rappeler d'y jeter un coup d'œil si la thématique vous intéresse. Et bien évidemment, dans un style visuel qui est très coloré, qui est très agréable, bon, pas tant réaliste, et c'est pas ce qui est voulu non plus. Donc, visuellement, ça marche également. Donc, vraiment, un petit coup de cœur fort sympathique là, du côté de la BD Jeunesse, vers lequel j'avais envie de vous diriger. Et puisqu'on est du côté des éditions La Pastèque, mais pourquoi pas mentionner Wendy Maître S.R., c'est de Walter Scott. C'est le deuxième Walter Scott qu'on voit apparaître en autant d'années. Là, si je ne me trompe pas, l'an dernier, c'était du côté de Mécanique Générale qu'on avait publié. Donc, une première traduction de cet auteur-là et de ce personnage-là. Donc, Wendy, essentiellement, qui est-elle? Eh bien, elle est une étudiante en art. Elle développe, approche sa maîtrise du médium et de la réflexion autour du médium dans des cours qui sont parfois bien ancrés dans un contexte réel, parfois un peu trop pompeux pour elle. Elle gravite dans ce milieu-là. Elle essaie de trouver sa place dans ce milieu-là. Et en parallèle, elle mène aussi une vie de fête, une vie un peu, j'aurais presque envie de dire, de débauche à un certain degré. Disons qu'il y a des matinées qui sont fort difficiles. Évidemment, c'est, on peut l'imaginer, un parcours étudier un peu lambda avec quelques exagérations à travers tout ça. J'avais trouvé sympathique ce qu'il nous avait offert l'an dernier et d'autant avec ce que nous propose la pastèque, là, où on voit vraiment, c'est le parcours de maîtrise de Wendy, donc où on la suit pendant une période assez prolongée. On la voit faire des tentatives sur le plan des études, questionner un peu sa méthode, ses approches et le reste, questionner sa place dans ce groupe-là, se comparer aux autres, se mettre un peu en quête d'amour, se rendre compte de ses troubles, de ses problèmes, des éléments qui font qu'elle a peut-être une difficulté aussi à connecter au-delà d'un certain point avec les autres, une dynamique d'isolement qui va se créer, qu'elle va tenter à un moment donné de briser. Évidemment, des fêtes qui sont aussi omniprésentes là-dedans et qui viennent un peu lui faire faire des pas de recul à un certain degré aussi. Bref, j'ai trouvé ça intéressant, sincèrement, de la façon dont tout ça a été amené dans la fresque un peu très à l'aspect très quotidien là, de Walter Scott, mais justement sur la durée, ça permet vraiment aux éléments de se développer, de se placer avec des personnages qu'on avait découverts dans les opus précédents, bien évidemment, qui reviennent. Mais bon, Wendy a changé un peu de ville, a changé un peu de contexte. Donc, il y a certains éléments de l'ancrage d'albums précédents qui ne sont plus là ou qui reviennent de façon différente. Donc, bref, j'en dirais pas tant parce que ça resterait justement un récit ancré sur un bel anecdotique, je trouve, mais cette anecdotique-là qui vient justement servir à différents éléments, soit à être drôle parce que ben Wendy a un côté entre guillemets trash qui en ressort, qui est amusant et qui fait sourire. Il y a quand même de l'émotion parce qu'au-delà de cet aspect amusant-là, Wendy n'est pas une caricature en tant que telle, où elle dépasse à tout le moins la caricature pour nous amener vers des éléments qui sont franchement plus humains sur l'amitié, sur l'amour, sur l'ouverture aux autres, sur la place qu'on prend, sur notre perception par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre travail en art et le reste. Donc, il y a aussi cette dimension-là que j'ai trouvé fort intéressante. Et tout ça en parallèle, soutenu par un dessin qui est très simple, mais à la fois aussi très expressif, où on suit bien un peu tout ce qui se passe et tout le petit monde qui gravite autour justement du programme d'études de Wendy, entre professeurs, étudiants et le reste. Donc, bref, je trouvais que l'ensemble fonctionnait de façon très agréable. Ça m'a amené un peu à redécouvrir ce personnage-là et avoir envie de replonger justement là, vers l'autre Wendy, donc de reculer un peu en arrière. Alors voilà, donc pour Wendy, Maître S.R., c'est du côté de la pastèque, c'est de Walter Scott, également disponible en traduction. Et sincèrement, sympathique album. Si vous aimez un peu ce style-là, si vous hésitez, ben, allez feuilleter quelques pages, allez voir si c'est pour vous ou si ça ne l'est pas. Sincèrement, j'ai agréablement embarqué dans la proposition qui nous était faite ici. Petit clin d'œil très rapide aussi à une petite surprise qui nous est envoyée du côté des éditions Ça et là, avec le succès obtenu par Derf Back Derf au fil des dernières années. Donc, Derf Back Derf, évidemment, qu'on connaît là, pour d'excellents, excellents albums, qu'on pense à cet album sur Kent State, qu'on pense à mon ami Damar, qu'on pense à Trashed et à Punk Rock et Mobile Homes, des albums que, personnellement, j'ai beaucoup appréciés. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous aviez écouté, je pense que c'était en 2020, on avait eu l'occasion de passer une heure avec Derf pour échanger avec lui autour justement de son parcours. Et on avait mentionné que Trashed, c'était un peu une reprise ou un remix, on peut dire, d'un album existant, donc qui était un album qu'il avait fait au départ où il s'était inspiré justement de son été comme travailleur sanitaire, en fait comme éboueur. Et entre cet ouvrage-là et Trashed, bien, il y avait justement toute une dimension documentaire qui avait été développée, enrichie et des éléments un peu de fiction qui étaient venus s'ajouter un peu aux différents personnages, aux différentes anecdotes, donc pour offrir quelque chose de plus substantiel. Et ben justement, les éditions Ça et Là ont décidé de rendre disponible en traduction la portion originale, donc l'album qui avait inspiré l'autre album essentiellement. Donc, on parle d'un album qui est beaucoup plus succinct, plus petit. C'est des anecdotes de sa courte, entre guillemets, carrière d'Éboire quand il avait 19 ans, donc entre 1979-1980. C'est des histoires qu'il racontait lui à l'époque et vers lesquelles il avait envie d'amener des lecteurs et ça l'avait amené justement à bâtir, à proposer cet album-là à l'époque. Donc, un récit d'à peu près 56 pages qui allait donner naissance à un roman graphique beaucoup plus substantiel là, de 240 pages. Alors, personnellement, j'aime beaucoup Bagderf. Alors, je le reçois un peu comme un complétionniste, si on peut dire, dans la mesure où pour moi, ça me permet de compléter la collection. Mais évidemment, j'imagine que votre intérêt envers cet album-là dépendra justement de votre relation avec l'auteur. C'est certain que pour la thématique justement de la gestion des matières résiduelles, Trashed offre un portrait qui est beaucoup plus complet, avec une plume qui est plus mature aussi de la part de l'auteur. Donc, pour le sujet et la thématique, il n'y a pas tant de raisons d'aller vers l'année des ordures si vous n'avez pas déjà lu Trashed. Par contre, il faut lire Trashed, c'est excellent et c'est pertinent. Mais dans le fond, l'année des ordures, j'ai l'impression, va s'adresser plutôt à ceux qui ont adoré cet album-là, qui ont suivi le parcours de l'auteur et qui ont envie justement de voir son premier récit longue forme et voir comment il a pu évoluer, progresser ensuite d'album en album. Alors là, il y a peut-être un peu plus d'intérêt. Alors, c'est un album que je ne recommanderais pas pour consommation très, très large, mais par contre, dans le contexte justement de gens qui, comme moi, aiment Bagderf, ben pourquoi pas ajouter cet album à la bibliothèque et aux titres qui sont déjà disponibles. Alors, ça s'appelle « L'année des ordures », c'est de Derf Bagderf et c'est disponible en version française chez Ça et Là. Autre commentaire, BD, René au bois dormant. Encore là, c'est le cas d'un album que j'ai mentionné vite fait dans mes coups de cœur de début d'année, mais je pense que ça vaut la peine de réitérer l'intérêt de ce récit. Alors, essentiellement, donc, un récit de quête de soi d'un premier côté. Donc, René, c'est un garçon qui cherche sa place un peu en société. Il a l'impression que sa mère ne lui ressemble pas. Il se fait faire des réflexions un peu à travers tout ça. On a l'impression qu'il manque peut-être un peu d'amour. Donc, il y a des moqueries. Bref, il ne sent pas bien, il ne sent pas à l'aise, il ne sent pas à sa place dans sa vie. Et un peu avec raison, dans le fond, d'une certaine façon, dans la mesure où on a l'impression que l'environnement autour est un peu hostile à lui. Au bout du compte, donc on peut facilement se mettre à sa place, s'approprier un peu cette peine, la comprendre, cette peine-là. Et donc, c'est un petit garçon qui a aussi des évanouissements de façon sporadique, un peu imprévue. Et à un moment donné, dans un évanouissement, il va se retrouver dans un univers hors du monde, d'une certaine façon, et il va se mettre à la recherche d'un lapin, en fait, parenthèse, et qu'il y a un lapin en plus qui est l'objet qui lui apporte du réconfort dans son quotidien. Il l'a perdu, donc il va aller le chercher. Et évidemment, il va découvrir ce monde hors du monde-là. Il va faire des rencontres positives et négatives au fil de son exploration. Évidemment, à travers cette quête à l'intérieur de lui-même, au bout du compte, ben, il va devenir quelqu'un d'autre, il va se métamorphoser, il va grandir, donc un peu un récit initiatique. Donc, c'est vraiment intéressant d'un point de vue narratif et tout ça jouxté par un aspect visuel qui est juste hallucinant, qui est magnifique. Sincèrement, allez parcourir cet album-là en librairie, feuilletez-le, faites-vous plaisir, faites-vous ce plaisir-là. C'est absolument magnifique d'un point de vue visuel. Là, Hélène Hudin propose là vraiment quelque chose qui est visuellement magnifique. Évidemment, l'excuse de la fantasmagorie ouvre la porte à quand même des belles interprétations visuelles, belles créations de monde avec des règles qui sont, disons, plus libres que le monde réel aussi. Donc, ça ouvre de belles portes et il y entre dans ces belles portes-là sur le plan visuel. Et évidemment, il y a un élément sous-jacent à travers tout ça qui nous ramène aussi vers l'histoire canadienne, en fait. Elle est une autrice qui vient de France, mais elle s'intéresse à l'histoire du Canada et elle fait beaucoup référence dans le livre à dans le fond, essentiellement, l'enlèvement d'enfants autochtones, donc des enfants autochtones qui ont été adoptés par des familles blanches. On en a parlé quand même pas mal au fil de l'actualité. Évidemment, il y a eu des conséquences d'un côté chez les parents qui sont vus retirer, enlever leur enfant, et de l'autre, mais chez ces enfants-là qui ont été déracinés pour se retrouver dans d'autres milieux, dans d'autres contextes, peut-être un peu plus loin de leur culture originelle et peut-être aussi avec une césure entre leur contexte actuel et leur culture d'origine, au bout du compte, où on leur enlevait, on leur retirait, dans le fond, une part d'eux-mêmes. Donc, vraiment, il y a cet ancrage-là, je pense, qui apporte une dimension supplémentaire au mal-être, aux éléments qui ont amené à ce mal-être-là également. Donc, je pense que c'est un album où toutes les dimensions sont là pour séduire, pour nous faire nous émeut, nous faire ressentir de l'émotion, si on peut dire, nous intéresser. Vraiment, c'est un album marquant. C'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'elle est finaliste au prix des libraires. C'est pas pour rien qu'elle a remporté le grand prix de l'Association des critiques et journalistes, la CBD. Je pense que c'est le genre d'ouvrage peut-être à mettre à côté d'autres ouvrages aussi qui sont intéressés à ces thématiques-là dans la dernière année. Je pense notamment à « C'est le Québec qui est né dans mon pays » pour enrichir un peu à travers des objets littéraires nos réflexions par rapport à cette dynamique-là entre les peuples francophones, les peuples anglophones et les peuples autochtones qui ont fait du Canada ce qu'il est aujourd'hui. Donc, une thématique qui est importante dans l'actualité et qui est importante au-delà de l'actualité dans l'idée simplement de faire pays, l'idée de faire territoire, l'idée de faire société et qui nécessite d'une manière ou d'une autre un dialogue, une réconciliation et le reste. Donc, en prenant un peu tous ces éléments-là, eh bien, pourquoi pas justement voir la bande dessinée contribuer. Je n'avais pas tari d'éloge par rapport à C'est le Québec qui est né dans mon pays pour diverses raisons, parce que ça nous permettait à nous de comprendre, de se placer, de se positionner un peu à travers ces réalités-là, eh bien, d'un point de vue peut-être un peu plus, visuel, d'un point de vue peut-être un peu plus déroutant, dans une accroche qui est complètement autre, en fait, où on n'est pas du tout dans la science, on est purement dans un ressenti. Il y a donc une autrice française qui essaie de se mettre à la place, qui essaie de plonger un peu dans ces réalités-là. Évidemment, il y a un filtre à travers tout ça, donc c'est pas la même expérience que si on avait un auteur autochtone qui nous racontait une expérience qu'il a vécue, mais à tout le moins, à travers cette expérience de fiction-là, Udin ouvre la porte aussi vers des dialogues, vers des perceptions, vers des réflexions qui me semblent pertinentes, et d'où l'intérêt de l'intégrer dans un ensemble de lectures, mais je pense que c'est un album qui peut apporter à cette réflexion-là, et de façon un peu plus large. Encore là, je le répète, visuellement, c'est magnifique. Et ça, c'est clair que pour la bande dessinée, l'aspect visuel demeure un aspect incontournable. Alors ça, c'est chez Sarbacane, ça s'appelle René au bois dormant, et c'est d'Hélène Udin. Et bien voilà qui conclut cette édition de La Vie en BD. C'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine et on se dit à la semaine prochaine.